les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. J'écris du fond de l'autre. C'est Jean Dumortier qui a écrit ça dans L'Âge fruitier. Et Jean Dumortier qui cherchait à rejoindre l'autre dans l'unité profonde qui les rassemble. Cette unité profonde qui nous rassemble, eh bien nous allons la chercher, nous, dans le poème. En premier lieu, je voudrais citer Sylvie Germain. Sylvie Germain, qui, rappelons-le, a été lauréate de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, ici, il y a quelques années. On a eu le plaisir de la voir dans la salle des illustres. Sylvie Germain, donc, qui est écrivaine, romancière, qui a beaucoup d'ouvrages à son actif, eh bien, elle a fait paraître un petit livre bien sympathique aux éditions Almanach, qui s'appelle « Couleur de l'invisible », invisible avec un I majuscule, avec des dessins de Rachid Koraïchi, aux éditions Almanach. Il s'agit là de 9 proses poétiques de Sylvie Germain, qui sont illustrées, comme je viens de le dire, par Rachid Koraïchi. Et là, on voit effectivement toute l'influence dans ses dessins, bien entendu, de la calligraphie arabe. Et une écriture, un dessin de haut vol, donc, autour des 9 couleurs qui l'ont aimanté. Et donc Sylvie Germain, qui est l'auteur, rappelons-le, du Livre des Nuits et de Et le vent reprend ses tours, pour ne citer d'ailleurs que ces deux livres, Sylvie Germain donc convoque culture et religion. Et l'illustrateur la rejoint. Ensemble, il suggère le mystère de l'invisible avec un I majuscule. C'est donc un livre de dialogue, un dialogue au sens plein du terme. Sylvie Germain qui dit ceci par ailleurs et qui est important dans la création de l'écriture. On écrit, dit-elle, certes, dans une totale solitude et jamais pour un public, ce serait du manquer de respect, ajoute-t-elle, hein, mais jamais pour soi seul non plus. On écrit en fait pour ce qu'il y a d'altérité en soi, pour tous ces mots qu'on a entendu dire, pour ces morts dont le visage ou le regard reviennent dans la densité extrême de la concentration. Voilà. Donc on retrouve ce que disait le poète Jean Dumortier dans L'Âge fruitier. J'écris du fond de l'autre. Donc, on écrit toujours pour l'altérité. Jean Dumortier, qui était d'ailleurs un homme de communication et qui s'est interrogé sur l'incommunicabilité fondamentale, sur le décalage entre la vie intérieure du poète et l'existence du quotidien. Donc, c'est un dilemme qui est constant et qui est commun à l'ensemble des poètes. Alors je vais vous lire deux extraits de ce livre de Sylvie Germain. Je vous ai dit qu'il y avait 9 couleurs. Je vais vous lire 2 couleurs, le jaune, et puis je vous lirai le blanc. Alors, le jaune. Jaune. Ils ont ramassé des pierres. Des grosses, des moins grosses, des rondes, des tranchantes. Ils ont ramassé des pierres en hâte, en vrac, et ils les serrent dans leurs mains. Les serrent fort dans leurs mains, comme enfant, on est en train d'en jouer, un trésor entre ses doigts, fébrile, entre ses doigts jaloux. Il serre si fort les pierres les grosses, les moins grosses, les rondes, les tranchantes, que leurs doigts s'y écorchent et la peau de leurs pommes se minéralise peu à peu. Elles sont belles, leurs pierres. Elles sont lourdes et sombres. Elles ont la beauté de la haine. Elles ont le poids de la loi, la densité de la violence, sûre de son droit. Elles sont, leurs pierres, des concrétions de la justice, et elles vont frapper juste là où elles doivent frapper. Frapper. Frapper la femme impure, l'infidèle, l'amoureuse au cœur buissonnier, l'amante au cœur rebelle. Frapper, frapper la femme, briser ses os, la battre. Elle ne dit rien. Elle ne pleure pas, ne gémit pas. Elle se tient droite sur les cimes de l'effroi. Elle ne pense même plus, ne prie pas. Un goût de sang hante sa bouche. Son corps seul pense. Sera-t-il heurté à la nuque, à la tempe, aux reins, à la poitrine, aux épaules, au ventre? Les hommes aux mains pierreuses crient. Un seul se tait. Il se tient penché vers le sol. D'un doigt léger, il écrit sur la poussière. Il n'écrit rien. Il écrit à la façon du vent dans les herbes, d'un rayon de soleil sur un pan d'ombre, de pas filant à fleurs de sable. Il écrit le silence dans le fracas des cris. Enfin, il se redresse et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et de nouveau, il se penche, il écrit dans le vide, comme on écrit sur l'eau, sur le vent, la lumière. Il n'a croisé aucun regard pour ne pas attiser la colère des justes au point de pierre, ne pas faire chanceler la femme éperdue de peur. Il écrit hors des mots, il délie le langage. Des pierres jonchent le sol, des grosses, des moins grosses, des rondes, des tranchantes. Elles forment un cercle autour de la femme, un cercle de cœur noir, rugueux. Les mains qui les portaient les ont lâchées. Elles ne voleront pas, elles ne siffleront pas, elles ne frapperont pas, elles ne tueront pas. Pas aujourd'hui. La honte les a clouées au sol. La femme est restée seule au milieu des cœurs calcinés. En face d'elle, il y a l'homme qui écrit dans le vide. Il semble étonné de ce soudain silence. Où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, répond la femme. Et la femme se retire. L'homme, une fois encore, s'incline et esquisse des zébrures invisibles du bout d'un doigt sur le dallage puis il s'en va. Un mot brasille sur le dallage du temple, jaune vif. Un mot fulgure dans le temple désert, personne. Il étincelle parmi les pierres abandonnées, parmi les cœurs pétrifiés. Personne. Comme une coulée de lave, une exclamation de lumière. Personne. Signature solaire de l'esprit. Paraphant un acte de délivrance. Sylvie Germain, couleur de l'invisible. C'était le jaune. Voilà. Nous avions besoin d'entendre ça, surtout à un moment où il y a des velléités de voir ressurgir la charia dans, comme loi universelle. La charia qui domine dans certains pays, en particulier en Afghanistan. Et rappelons que la lapidation a été quand même, malheureusement, l'apanage de ceux qui veulent à tout prix imposer cette loi de la charia. Deuxième récit, donc poétique, de Sylvie Germain, de ce recueil Couleur de l'invisible, la couleur blanche, donc blanc. À cela, nulle couleur n'a été offerte. Ils vivent en fantôme dans un monde achromatique. Ils somnambulent sur la terre, à contre-ciel, à contre-tout. Ils errent en titubant, s'écorchent à la rugosité des choses, des jours. Terre et ciel, pareillement barbouillés de blanc sale. D'emblée, on a souillé la blancheur de leur cœur. On leur a fripé l'âme, scarifié la pensée. On a volé toute lumière dans leurs yeux, sous leurs paupières trop lourdes, couvent un feu âcre et glacé. Non, aucune couleur n'a pu éclore sur le crépi crasseux qui encroûte et la terre et le ciel autour d'eux. Ils sont les naufragés qui traînent leurs dépouilles au relent de charognes, au hasard des rues, des gares, des jardins publics, qui s'échouent dans des bars, des asiles, sur des bancs de métro, dans les commissariats, finissent à la morgue. Ils puent. Et cette puanteur est leur identité. Le seul bien qu'ils possèdent, la seule chose qu'ils fabriquent avec leur sueur, avec le pu de leurs blessures, avec leur urine et leur merde, avec leur vomissure, elles tissent autour de leur chair flasque une sorte de corps second, immatériel. Un corps de gloire fétide, un nimbe répulsif et douillé. Leur puanteur leur est cocon, autant qu'armure, qui s'y frotte si épouvante. Ils s'y lovent la nuit, s'y retranchent le jour, ils dorment à toute heure. Ce n'est pas du sommeil. C'est un évanouissement à répétition, un coma plein de turbulence, un trompe la faim, trompe la mort, une façon de faire la nique au temps et le réveil sont des naissances ratées, à la fois trop tardives et prématurées. Ils émergent, hirsutes, et tremblant, comme de très vieux pains. petits enfants abandonnés, des orphelins de l'entière humanité, des bâtards inconsolés, follement encolérés. Ils fouillent dans leurs poches, dans leurs sacs troués, cherchent fébrilement de quoi calmer leurs tremblements. Un peu de vin, une cigarette, un cachet, un joint. Avec le temps, ils ne font plus de phrases. Ils jappent des mots, éructent des sons gluants, des râles, crachent des lambeaux de rire, des éclats de toux. Plus de phrases, c'est trop long, compliqué, et puis ça ne sert à rien. Les mots, le langage, c'est comme les gens, c'est pas fiable. C'est comme le corps et ses nippes, ça part en loque. C'est comme l'amour et les promesses, ça ne tient pas la route. C'est comme Dieu, sacrée foutaise. Les mots, c'est comme le sexe, on s'en sert quand on en a besoin, comme on peut. À la sauvette, à l'arraché. Souvent, il parle seul, tenant colloque avec un interlocuteur invisible, se colotant avec l'un des démons qui les hante. Pareil avec le sexe, ils sont experts en solitude. Ils ont sondé le cœur de l'homme. Une dent creuse et avariée. C'est pas eux qu'on va la faire, la comédie de la beauté, de la grandeur de l'homme, la bouffonnerie de l'espérance, la grosse farce de Dieu. Certains ont tué, comme ça, sans l'avoir voulu, par mégarde. Par impatience, ou dans un moment de colère, ou parfois par plaisir. Leurs crimes, comme leurs amours ratés, comme leurs rêves, se délitent dans le tout à l'égout de l'oubli. Ils sont les maîtres du néant, et de l'indifférence. Ave est le monde, blafard, le chagrin poisseux qui sans fin suinte dans leur sang, blême, et la mort qui clapote à chacun de leurs pas. Ils sont les sans couleur, mais peut-être une couleur inconnue au spectre solaire les attend-elle? Une couleur douce comme la caresse qu'ils n'ont jamais reçue, une caresse radieuse, à l'instant de glisser dans le mystère de la disparition, une caresse, un souffle de lumière, un rien splendide, tellement plus vaste que le néant, peut-être. Sylvie Germain, Couleur de l'invisible, aux éditions Almanach, c'était le blanc, vous voyez le blanc. Donc vous penserez à ce poème chaque fois que vous rencontrerez dans la rue ce que l'on appelle les SDF. Alors maintenant, je voudrais revenir à un tous nos auteurs d'Occitanie, parce que nous avons pas mal d'auteurs, de poètes en Occitanie. Et là, je n'ai que l'embarras du choix, j'en ai trois là, sous le coude. Lequel vais-je prendre? Alors, nous avons... nous allons parler de Georges Catalot. L'ami Georges Catalot, qui est un habitué de cette émission. Georges Catalot, qui est né en 1947, hein, situe cette génération de l'après-guerre, mais quand même des années 40, il s'en est dans les années 40, la fin des années 40. Il est né à Albi, et Georges Catalot, il vit maintenant dans la campagne lauragaise, près de Toulouse, 25 km de Toulouse. Et il a publié une trentaine de plaquettes de poésie. Donc il a une œuvre, actuellement, au moment où je vous parle, Georges Catalot a une œuvre. Et il fait paraître régulièrement des notes de lecture et des articles dans de nombreuses revues qu'il connaît toutes. Et puis il est aussi l'archiviste de tout ce qui s'est produit en définitive en poésie, d'une façon générale, depuis qu'il s'intéresse à la poésie, c'est-à-dire depuis très longtemps. Et surtout, il est l'archiviste des poètes d'ici. Il les connaît bien, il ne manque jamais une de leurs publications, et il sait les classer, il sait les répertorier, et il sait aller les rechercher. Voilà. C'est, à ma connaissance, le seul poète parmi nous, parmi les gens ici, de cette région d'Occitanie, qui ait vraiment ce talent, de peut-être parce que... comme il a été enseignant pendant très longtemps, il a eu cette obligation de mettre de l'ordre dans les choses et de pouvoir faire de la pédagogie. Donc il sait ce qui s'est passé sur le plan de la poésie dans ces 40 dernières années. Et là, il publie dans la nouvelle édition de Encre Vive, c'est le numéro 545, vous rendez compte, 545 numéros d'Encre Vive. Hein, combien Michel Cozem serait heureux de voir que son œuvre continue. Encre Vive, donc, qui continue. Et ça a paru, ça, au mois de février 2025. Toujours à 6,60 €, avec le nouveau directeur d'Encre Vive, et le nouvel animateur que nous saluons très bas, donc Éric Chassefière. Éric Chassefière, vous pouvez lui écrire à encre au pluriel, un point, vive 34, vive au pluriel, le chiffre 34, ensuite, @gmail.com. Vous pouvez là commander ce numéro, donc d'encre vive. Et ce numéro d'encre vive de Georges Catalot s'appelle On aura. Il y a en photo une silhouette. Je reconnais la silhouette de Madame Catalot. Très belle photo avec des arbres et cette silhouette donc de Marie-Claude. On aura donc le 545e, excusez-moi, numéro d'Encre Vive. Georges Catalot qui a fait paraître ceci. Alors il s'explique d'ailleurs sur cette publication, je crois, où il dit que il avait, je crois que c'est quelque chose qu'il avait publié il y a quelque temps, et puis qu'il a voulu reprendre. Il n'arrivait pas à le retrouver, ça. Oui, voilà. Ceci est la deuxième version revue et corrigée d'un ensemble intitulé « On aura », qui a été épuisé depuis 1992, et cet ouvrage était paru en 1987 aux éditions La Bartavelle. Voilà, je m'en souviens de ça. La Bartavelle. Georges Catalot, On aura. En exergue des quelques vers de Jean Malrieux, extrait du Château Cathare. Jean Malrieux, notre grand poète, hein, qui habitait Montauban, mais qui a vécu beaucoup, bien entendu, à Marseille, et qui a dirigé les Cahiers du Sud, Jean Malrieux. Et nous sommes misérablement heureux sur Terre. L'éternité n'a pas de relais et nous n'avons pas de mémoire que pour craindre et pour espérer. Jean Malrieux. Honora de Georges Catalou. On aura tout vu de ce que l'on devait voir, du moins le croit-on. On aura tout entendu de ce que l'on pouvait entendre, du moins le pense-t-on. On aura tout dit, faute de pouvoir se taire. On se sera tu, faute de pouvoir parler. On aura tout lu, des mots d'ordre, aux slogans rageurs, des mots d'amour, aux conseils sauvages. On aura participé au désastre quotidien sans bouger, sans réagir. On aura baissé la tête, rasé les murs avec les fantômes du doute. On aura pris des nouvelles de la mort, celles des proches ou celles des amis qui sont toujours vivants. On aura cru résoudre énigmes et problèmes avec des solutions passagères et des réponses illusoires. On aura trouvé ce qui se tramait derrière le rideau de scène avant que la pièce ne commence. On aura perdu tout espoir d'espérance dans une troublante confusion. On aura pensé pouvoir se survivre, prolonger le voyage juste pour quelques heures. On aura cherché en espérant trouver. On aura trouvé tout à fait par hasard, alors qu'on ne cherchait pas. On aura cherché dans le noir absolu cette petite lumière qui ne s'éteindrait pas. On aura regretté d'avoir fait et de ne pas savoir fait, corde raide, invisible, entre deux gouffres. On aura minuté chaque silence qui survenait, chaque soupir sur nos partitions. On aura vu des miroirs s'éteindre, puis disparaître soudain au moindre reflet. On aura divagué avant le grand plongeon à fleur d'eau ou dans les profondeurs. On aura fait face aux sournoises menaces et aux ricanements. On aura repris courage, réduit la voilure en relevant les défis sur un océan déchaîné. On aura pris des résolutions. Point levé face à la mer. Regard tendu vers le large. On aura bâti des murs et des toits, des maisons de papier, de sable et de vent. On aura traqué des fragrances nouvelles sur l'arc-en-ciel des couleurs, des odeurs. On aura pris goût au banal, au dérisoire, à ce qui demeure quand les mots ont disparu. On aura repoussé les fragiles échéances, les contrats avec le destin. On aura laissé vagabonder l'imagination et son cortège dans le brouillard des jours de doute. On aura cru entendre les échos de sa propre voix, appels de détresse ou simples invitations. On aura deviné des pas dans l'escalier, des souffles sur nos nuques. On aura maquillé ce qui gênait, travesti les apparences, masqué les reflets douteux. On aura pris la peur de vitesse quand le cœur s'affolait. On aura caricaturé les gestes des pandémies, les apocalypses familières. On aura voulu se défaire du joug qui faisait baisser la tête. On aura rejeté les mots faciles, ceux de la séduction ou ceux des projets fous. On aura joué à qui perd gagne quand tout se valait dans le cornet à dés. On aura dévoilé ses cartes et ses atouts sur les tables de jeu. On aura griffonné des mots maladroits sur des bouts de papier ou sur des murs décrépits. On aura donné sans avoir reçu, mais aussi à part égale, reçu sans avoir donné. On aura réchauffé ses mains et ses pieds à des flammes sans feu. On aura plongé dans le ventre chaud du futur immédiat. On aura versé des larmes invisibles, paupières closes, cœur résigné. On aura parlé quand il fallait se taire. On se sera tu quand il fallait parler. Aura-t-on compris? Aura-t-on ressenti? Aura-t-on vécu? Georges Catalot, on aura 545e numéro d'Encre Vive, 6,60 € que vous pouvez vous procurer en écrivant par mail à encre.vive avec un S, encre et vive. 34, encrevive 34, @gmail.com. Et puis éventuellement, vous pouvez écrire au directeur de cette revue, Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 34110 à Frontignan. Voilà, nous mettrons bien entendu toutes ces coordonnées sur notre site lespoètes.fr, attention, lespoètes.site, S-I-T-E, lespoètes.site. Voilà. Le poème à jamais demeure un élan, un désir, sans cesse renouvelé, nous avait dit Thierry-Pierre Clément, que nous avons consacré une émission pour son essai Fenêtre Poésie, Fenêtre Ouverte. C'était aux éditions Samsa l'année dernière, en 2024. Alors, nous allons continuer avec Éric Chassefière, Le Jardin et Visage, suivi de Dans l'invisible du chemin. Alors là, c'est avec une préface d'Éric Barbier que je vais vous lire, qui constitue le 537e numéro d'Encre Vive. Encre Vive, vous pouvez aussi vous y abonner. L'abonnement vous coûtera pour les 12 numéros de l'année 40 €. Et puis, si vous voulez avoir également l'abonnement plus les éditions Encre Blanche et les éditions Lieu, hein, il y a 2 numéros de Lieu et 2 numéros d'Encre Blanche, cela vous coûtera 45 €, ce que je vous conseille, plutôt que de prendre un abonnement simple. Alors, il s'agit là de Éric Chassefière, qui publie, donc chez lui, donc à Encre Vive, il publie Le Jardin et de Visage, suivi de Dans l'invisible du chemin. Donc, de quoi s'agit-il ? J'écris dans un entretien avec, j'ai écrit, dit-il, Éric Chassefière, hein, dans un entretien avec Clara Régis, la poésie est avant tout pour moi un acte de vie. J'ai besoin d'écrire pour me sentir vivant, tisser un lien charnel avec le monde, un désir d'appartenance qu'on pourrait qualifier d'amoureux. J'ai longtemps écrit exclusivement dans la nature, l'été, sur le lieu d'enfance, submergé par le sentiment d'une beauté dépassant mon entendement que par les mots je tentais d'atteindre et de me réapproprier. Il y avait déjà ce plaisir sensuel à faire naître les mots du corps, de sa vibration profonde, faire corps du poème, entendre et ressentir à travers lui. C'est ainsi qu'est né mon désir d'écrire, retrouvé sous la caresse des mots d'enfance, perdu, mon jardin d'Éden. Sans ces 50 poèmes, donc de ce numéro, ont été écrits au seuil de la maison, dos à sa pénombre, face à l'ouvert du jardin, celui-là même d'où naît le monde et où la mort qui vient sur renaissance. Visage caressé par le vent, de lumière et de pluie, en ce printemps d'une nouvelle vie, un nouveau lieu, parmi de nouveaux visages, illustre mon propos. Des images, des films qui m'ont marqué, d'Andrei Tarkovski, ici, et Le Miroir, traversent ces pages. La lumière de la poésie d'Yves Bonnefoy, tout en clair-obscur, les illumine. Ces poèmes, je l'espère, seront un jardin au lecteur, désireux de se mettre à l'écoute de la vie. Et en couverture, il y a une peinture à l'acrylique de Madame Chassefière, c'est-à-dire Catherine Bruno. Voilà, magnifique, absolument magnifique. Voilà. Les jeunes qui ont du talent, hein, les dames encore qui ont du talent d'écriture et du talent également de peinture. Alors voici la préface d'Éric Barbier, que nous saluons, Éric Barbier, qui habite les Hautes-Pyrénées, près des montagnes. Le jardin est visage, visage aussi de ce que l'on reconnaît, lui qui échappera continuellement à toute tentative d'appropriation. Jardin de présence, où le temps ne se retrouve plus. Jardin d'attente, où brûlent les roses, quoi de mieux que la cendre de ses fleurs pour dessiner les mots. Le jardin est visage, le poème ici écrit le vent, équilibre, vérifiant la vérité d'une hésitation. Le jardin est visage, les arbres qu'il a donnent ombre, s'élèvent ailleurs aussi. L'écriture tient le registre des temps qui vivent en nous. Une rose rouge ne parle pas comme la feuille neuve d'un grenadier. Le poème en sa nature détourne les évidences. Le jardin est visage, en lui se perdre pour gagner les usages de l'enfance, l'instinct qui assure le geste des yeux, d'éternité que l'on saisit dans l'instant d'un pétale ne sera pas même demain. La pluie est un visage et le lieu d'être de la beauté. Ainsi la nature ne se poétise pas, mais trouve à s'écrire par une véritable éclaircie du regard, nature dont l'homme reste un élément, quand le jardin est un mouvement en lequel la nuit saura égarer nos naissances pour que rien ne s'achève. Quoi de plus ancien, de plus neuf que le chant de l'oiseau? Le jardin est visage, le temps en lui cherche sa langue avant que plus rien ne trouve écoute. Le jardin est visage, le poème d'Éric Chassefière en fait entendre les lumières, donne à voir les expressions dans les saisons d'une toujours première découverte. Voilà la préface donc de M. Éric Barbier pour Le jardin et visage, suivi de Dans l'invisible du chemin d'Éric Chassefière. Écoutons maintenant Éric Chassefière. Le jardin et visage, à la mémoire d'Andrei Tarkovski. Pure lumière quand ce matin d'éveil, pure couleur de l'étendue de soie, cet orangé du mur caressé de soleil, ce bleu qui illumine le vol blanc des pies, cette substance du feuillage fait pure incrustation de l'ombre, ce calme, cette rumeur légère, en toute part de l'écoute, cela couvrant la fenêtre sur ce jardin vierge de tout regard, on ouvre la nuit. Que ces roses brûlées de lumière, là, sous la fenêtre. Tout à l'incandescence du cœur qui s'offre à elle seule, éclaire le jour, peut-être lampe de l'ange, peut-être qu'il faut dérober au temps. En ce jardin fait infini d'éveil, qui est dernière demeure de l'enfant. Le jardin et visage. Le jardin s'éclaire devant. L'arbre, aux voiles déployées, reste silencieux, la douceur des voix et partage. Une cloche teinte dit la profondeur du silence. On n'entend pas le temps. Seulement le battement d'une aile, le murmure de l'arbre, la main qui se pose, le temps est en nous, le temps est visage, souffle, écrire la voix, donner voix au poème, le faire jardin. Écoutez chanter les mots, le jardin et visage. Se perdre dans ce visage. Chercher en soi le vent, l'arbre, de la première nuit, sentir comme la lumière éclaire peu, comme la substance brille de soi, tout ici n'est que pierre ou cendre, tout invite à la caresse, à l'égrènement du temps. Il faut écouter plus loin. Tout se cache en tout. Le vent est silence qui accueille le chant. On entend mieux le chant quand la pluie fait reflet de l'ombre. La voix porte plus loin, le silence est plus intérieur. La tourterelle, tout au fond, roucoule. L'écoutant, on n'entend plus qu'elle. Rien qu'une ondulation du feuillage, très lente, silencieuse, un peu de vert tendre sur du sombre, quelque chose qui remue dans le désir. Plus haut, un léger ballet d'oiseaux, en son incessant jaillissement, toute une ligne de présence sur ce ciel que nul lointain n'éclaire, dans ce silence n'est d'aucune pensée, tout est clos, l'aile bas au souffle, l'oiseau né de l'arbre, l'arbre de l'oiseau, tout chante, tout se tait, tout écoute, tout meurt. Le pas ne laisse nulle trace, on ne peut clore que d'éveil, de lumière, à dérober à l'ombre, sur la voie, seule, tombe la nuit. présence sombre du jardin. Là, au secret du rêve de la main, en ce matin que nul n'habite encore, le chant de la tourterelle est plus lointain, la couleur des fleurs plus profonde, légère colline de la voix, là-bas, tout au fond du silence, léger chemin de souffle parmi pierres et fleurs, la voix cerne le jour, parfois, au blanc laiteux du ciel, une aile qui se peint, sa brève caresse au temps, c'est l'instant qui s'efface, déjà, on ne la voit plus, déjà, l'instant est souvenir. La colline doucement se rapproche, l'arbre n'est que silence. Un battement, là, dans l'au-dessous, nuit partout à fleur de ciel, le dessin seulement de ce jardin, l'impalpable de sa profondeur, sur cet au-delà de la lumière, ce haut ciel à la limpidité de cristal, plongeant dans l'abîme d'un ailleurs, beauté de ses vitraux de branches, inscrivant au cœur l'infini de la lisière, de ce noir sans fond, des arbres, ce labyrinthe qui se creuse, cette rive entre terre et ciel, bientôt s'effaçant, cette étoile, toujours plus lointaine, comme sombrant dans la nuit de la terre, ce silence, cette douleur, cet apaisement, cette immobilité de la parole, quand le poème vient s'y lier au silence. Il fait libre dans le ciel. Partout, chemin d'oiseaux, pas de silhouettes glissant au vent, cime légère d'arbres effleurés, partout, regard qui s'ouvre, lumière née de l'ombre, couleur dénouant la ligne, jardin n'habité que de présence, de ce qui en fait l'instant, la vague de l'herbe de printemps, la caresse du dessin de la pensée, au passage de l'oiseau, le feuillage que le vent fait silence, le vent que le feuillage fait ombre, de ce qui du vent demeure de silence, le chemin ici est indifférent. On fera toujours le tour d'un jardin, les pas, toujours, seront les fruits de l'arbre, le vent aura douceur du temps jamais écrit. Au soir, la présence en tout lieu chante. La tourterelle au souffle long bat le temps. Le soleil, quand il touche l'arbre, le recouvre d'un voile de nuit. Il l'éblouit davantage. C'est tout l'arbre qui éblouit. Toute la nuit de l'arbre. La terre alors touche le ciel. La lumière est plus près de l'ombre. Le chemin plus silencieux au pas, tout bascule dans l'indéfini. Le jardin n'est que de lisière. La lumière y a couleur du fruit. Jardin riche de tous les jardins, mémoire à jamais oublie d'elle-même, le vent seul demeure, agitant ses iris aux mauves effloraisons, qui offrent lumière de leur transparence, fleurs que tu as plantées là, près des yeux, pour que la lampe éclaire le jardin. Tout ici en ce jardin est plus grand, tout écoute plus loin. Trace plus loin lisière du visage, on entend avec ses mouettes passant et repassant au chemin de la mémoire jusqu'à la mer, jusqu'à la fenêtre ouverte sur la vague, on entend le murmure de l'enfant perdu dans les langues du sommeil. Tout ici, plus près du souffle, de l'éveil berçant le temps, jardin qui est infini d'éveil, d'arbres murmurant la nuit, de toute chose ici, percevoir l'illimité, l'ombre qui n'a mémoire, le reflet à la profondeur de pages, sentir comme la nuit est proche du corps, comme par le loin, le pas qui va sans rive. Donc vous voyez, Éric Chassefière, et on comprend très bien qu'Éric Chassefière ait pris la suite de Michel Cozem à la direction d'Encre Vive, parce que vous voyez, il est comme Michel Cozem. C'est un homme, un poète qui vit dans la célébration de la nature, la célébration du monde, la célébration de la poésie. Éric Chassefière est né en 1956. Il est diplômé de l'École polytechnique. Il est directeur de recherche émérite au CNRS, planétologue, il est historien des sciences. Alors on va retrouver ça, cette fascination de la nature, planétologue, hein, de la nuit, des étoiles, etc. On va le retrouver, bien sûr, dans son œuvre. Éric Chassefière a été professeur chargé de cours en physique de la Terre à l'École polytechnique dans les décennies de 1990 et 2000. Et il a dirigé dans les années 2010 le laboratoire géosciences Paris-Sud à l'université Paris-Saclay, dont la plus grande université de Paris, Paris-Saclay. Il a par ailleurs fondé en 2004 un master de planétologie et d'exploration spatiale en région Île-de-France. Sa recherche l'a amené à s'intéresser aux processus à l'œuvre dans les atmosphères des planètes telluriques et à leur interface avec les enveloppes superficielles de ces planètes. Il s'est fortement investi dans la conception d'instruments spatiaux et de missions spatiales et dévolu à l'observation des atmosphères planétaires. Il s'est employé dans la deuxième moitié des années 2010 à renforcer les liens entre géophysiciens, climatologues et astrophysiciens des différents campus de l'Université Paris-Saclay, ceci au sein d'un département de cette université qu'il a fondé à cette fin. Donc, science de la planète et de l'univers, vous rendez compte. Voilà, c'est magnifique qu'un scientifique de haut vol, et je dis ça sans mauvais jeu de mots, hein, soit aussi un poète de haut vol. Éric Chassefière a récemment réorienté sa recherche et travaille actuellement à l'Observatoire de Paris, dans l'équipe d'histoire des sciences astronomiques, où il étudie l'évolution des idées au XVIIe et XVIIIe siècle en matière de physique, de l'air et de l'atmosphère. Bon, bien sûr, il est poète, avant tout, et il est l'auteur d'une cinquantaine de recueils de poésie. Éric Chassefière, donc plusieurs, évidemment, aux éditions Encre Vive. Il a eu le grand prix spécial de la Société des poètes et artistes de France en 2021 pour Commune 16 aux éditions Altion. Je rappelle le titre, Le jardin et visage, suivi de Dans l'invisible du chemin, préface d'Éric Barbier, de Éric Chassefière, aux éditions Encre Vive. Ainsi s'achève cette émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Citam et nous vous disons à la semaine prochaine. À Nitiaris.